De retour avec Gaétan Lelièvre, notre chronique revue de l'année, donc pour terminer notre saison à Libre-Échange. Gaétan Lelièvre, un des sujets aussi dont on a parlé beaucoup en 2019 encore, après plusieurs années, c'est le chemin de fer en Gaspésie. Finalement, avec un nouveau gouvernement, ben là, il y a eu un virage, on peut le dire ainsi, là, qui s'est opéré quand même là, pour la réfection du rail.
Oui, la première annonce du nouveau premier ministre, M. Legault, ça a été, dans le fond, de reconfirmer la position de l'ancien gouvernement, c'est-à-dire, M. Legault est venu à New Richmond, je pense, là, en Gaspésie, oui. Bien sûr, mais je crois que c'est à New Richmond, annoncé, dans le fond, 100 millions pour la réfection du chemin de fer jusqu'à Port-Daniel. Mais je pense qu'il s'est rendu compte que son annonce n'était pas très nouvelle, parce que dans le fond, c'est ce que le gouvernement Couillard avait annoncé là, un peu plus d'un an plus tôt. Donc, il s'est repris. Il est revenu un peu plus tard, cette fois-ci en annonçant que son intention était de se rendre jusqu'à Gaspé et qu'il décidait de sauter une étape au niveau des études. On avait trois études à réaliser. Donc, il a décidé de sauter la première, qui était l'étude d'opportunité pour le tronçon Port-Daniel Gaspé. Donc, avec ça, on devrait gagner un 2 ans. Il y a aussi eu le fédéral qui, oui. De façon à la grande surprise de tout le monde, est arrivé avec sorti un 40 millions de son chapeau.
Oui,
le ministre régional
millions,
a sorti un 40 millions de son chapeau. C'est quand même pas rien. Donc, ça a été surprenant parce que c'était le fédéral n'était plus dans le décor depuis un bon bout.
Oui, on sait disait même que...
Bon, 96-2006, c'est les deux années où le fédéral a abandonné les deux tronçons de chemin de fer, là, Gaspé-Chandler et Chandler-Matapédia. Et depuis ce temps-là, c'était un petit peu silence radio. Mais c'est une excellente nouvelle. Donc, 40 millions du côté du fédéral. Une annonce du premier ministre.
Et d'ailleurs, il faut dire tout de suite, parce que l'argent du fédéral, c'est vraiment ce qui est venu, qui est intéressant, c'était pour rassurer que cet argent-là va être investi entre Port-Daniel et pour se rendre à Gaspé.
Oui.
Alors, c'est vraiment une somme d'argent dédiée pour se rendre à Gaspé.
Et ça vient mettre une pression sur le gouvernement du Québec, parce que si, par exemple, ça coûte
plus cher,
un autre 100 millions de Port-Daniel à Gaspé, bien là, le fédéral met sa mise sur la table. Est-ce que tu m'accotes? Est-ce que tu mets un montant équivalent? Est-ce que tu mets la différence? C'est une bonne stratégie. Faut l'avouer. Oui, là, là-dessus,
oblige.
Le fédéral a fait un très bon coup parce que ça met de la pression du côté du gouvernement du Québec.
Excellent.
Pour accoter au moins la mise et se rendre à Gaspé, effectivement. Il reste la question des délais. On a jonglé beaucoup avec les délais, mais à ce niveau-là, on est parti de 2026, on est rendu autour de 2024. Mais je pense qu'honnêtement, au moment où on se parle, le dossier n'est pas assez avancé. Je parle du tronçon Port-Daniel Gaspé pour avancer un délai. Tant mieux si le gouvernement annonce ses couleurs à l'effet qu'il veut rapetisser les délais, diminuer les délais. Mais on va falloir attendre les études qui vont démontrer l'état du réseau. Est-ce qu'il y a de la relocalisation de rails à faire? Est-ce qu'il y a de la protection? Tout ça va se définir. J'espère au cours de 2020 qu'on va avoir une meilleure aperçu de l'état des travaux à réaliser entre Port-Daniel et Gaspé pour enfin savoir si on peut compter véritablement sur le retour du train dans le secteur Port-Daniel-Gaspé.
Est-ce que la possibilité, en tout cas ça a été aussi discuté, qu'on puisse débuter des travaux en même temps du côté de Gaspé vers Percé et Port-Daniel vers Percé pour permettre justement, mettons, au train touristique, là, ce fameux train qui est stationné depuis des années, donc de peut-être pouvoir redémarrer.
Excellente idée, puis on l'a déjà mentionné, je pense, à ton émission ici il y a quelques temps, Richard, on va investir à tout près de 7 milliards dans le REM à Montréal en dedans de 3 ans. Puis nous, on n'est pas capable de faire en dedans de 7 ans 100 millions de travaux en Gaspésie sur un rail existant. Donc, c'est clair que s'il y a une volonté politique de réaliser les travaux plus rapidement, oui, on peut faire les deux tronçons en même temps. En bout de ligne, ça va être, disons, 200 millions total pour de New Richmond de Matapédia jusqu'à Gaspé. Donc, si on est capable de faire 7 milliards de travaux dans 3 ans à Montréal, en plein centre-ville de Montréal, on doit être capable de faire 200 millions de travaux en Gaspésie pour réhabiliter un rail existant. Puis il n'y a pas de trafic, il n'y a pas de voiture dans tes jambes, il n'y a pas de personne. Tu es sur un tronçon où il y a seulement le chemin de fer.
Alors voilà, donc 2020... On verra évidemment le dénouement de tout ça parce qu'il y a, il y a le côté politique qui doit agir là, au niveau justement du plan d'affaires et tout ça. Donc, on devra en savoir un peu plus.
Oui, c'est le fameux bureau des grands projets qui maîtrise le dossier. Et on sait que c'est une instance qui est très, très, je dirais, très lent en termes d'intervention. Malheureusement, c'était peut-être pas le bon canal pour passer ce projet-là.
Est-ce qu'il y a une question qui me vient en tête tout de suite, Gaétan? Est-ce qu'il y a des craintes à avoir par rapport à une étude d'affaires pour ce bout de tronçon-là, étant donné qu'on n'a pas de cimenterie? LM Wind Power, on semble comprendre qu'au moment où le train va revenir, que possiblement on n'aura plus besoin du train, qu'on va fonctionner par bateau. Est-ce que ça peut arriver que ça vienne mettre des bâtons dans les roues?
C'est sûr que la première étude est l'étude d'opportunité. On l'a esquivée. La seconde, c'est un peu le plan d'affaires, là, avant de passer à la troisième étape, qui est la construction des plans, l'élaboration des plans de vie. Donc, quand on parle de plan d'affaires, ben c'est de la business, autrement dit.
Donc, faut monter, c'est clair.
Est-ce qu'il y a un marché? Ta question est très pertinente. Maintenant, c'est un peu l'œuf ou la poule. Est-ce qu'on va construire un réseau s'il y a des preneurs ou on va construire un réseau de chemin de fer en disant que ça va amener des nouvelles opportunités peut-être pour de la clientèle et des entreprises qui, présentement, oublient le chemin de fer parce qu'il n'est, il est absent du décor depuis plusieurs années.
Donc, il faut avoir une vision du côté du gouvernement. Il ne faut pas s'arrêter à un plan d'affaires là, le portrait maintenant. Et ce qui pourrait se produire dans 10 ans. Là.
Je pense que la Gaspésie a du rattrapage à faire, beaucoup au plan des transports, que ce soit au niveau du transport aérien, transport ferroviaire, même le transport par autocar. On sait qu'on a perdu la moitié de notre service avec Orléans. Donc, le gouvernement doit prendre acte que la Gaspésie est de plus en plus isolée et c'est un facteur très négatif au niveau de son développement. Les intervenants du milieu veulent se développer, mais on a besoin de nos conditions de base. Puis, j'irai plus loin. Le message que le gouvernement devrait saisir ces temps-ci, là, c'est se préoccuper de l'accès dans l'ensemble des régions. On regarde la Côte-Nord, on a un problème d'accessibilité, la Basse-Côte-Nord également, la Gaspésie. Donc, je crois que le point commun qui rallie toutes les régions en termes de problématiques de développement ces années-ci, c'est l'accessibilité à des moyens de transport efficaces.
Donc, il faut voir ça comme un outil de développement. Hein?
Absolument. C'est un outil de développement.
Dans toutes les sphères.
Autant pour les marchandises que pour les personnes. C'est une condition de base au développement.
Gaétan Lelièvre, on a parlé de gouvernement, les élections fédérales, il faut dire que ça a marqué aussi cette année avec un gouvernement minoritaire maintenant. Donc, comment on doit analyser un peu cette élection puis aussi ce qui va s'en venir dans les prochains mois? Là.
Oui, ça a été
très serré.
Très, très serré. Un gouvernement minoritaire avec le regain ou la résurrection du Bloc québécois quand même à Ottawa, là, pour le Québec. Ça a été quand même une forte présence là, du Bloc québécois. On parle d'un lavage pratiquement. On a balayé le Parti conservateur de la carte du Québec. Dans l'Ouest, c'est un peu plus fort. Du côté du NPD, difficile aussi. Donc, on est dans une situation, je pense, là, très précaire au plan politique. Quand je dis précaire, là, le Canada, hein, présentement, on est avec un gouvernement minoritaire et je pense que ça va être un gouvernement qui va probablement durer à peu près 2 ans. Moi, c'est ma prévision. Il y a des enjeux majeurs au niveau de l'environnement, entre autres. On sent que les partis ne sont pas positionnés de façon, je dirais, très, très claire. Toute la question de la chefferie au Parti conservateur aussi, on entend toutes sortes de noms.
Jean Charest, en passant?
Ben oui, hier, c'était la grande nouvelle, l'ex-premier ministre du Québec, M. Charest, qui, historiquement, ses racines, ce sont des racines conservatrices. Il a été ministre, il a même été chef du Parti conservateur avec un seul député. Collègue à ses côtés pendant, je pense, 2 ans. Donc oui, ça va être... je pense qu'on a franchi une étape importante avec les élections. Mais je crois qu'on va entendre parler beaucoup, beaucoup encore de la scène fédérale au plan politique dans les prochains mois. J'ai l'impression qu'on va se ramasser dans une élection assez rapidement et on va toujours avoir parlé là, d'élection fédérale. Il n'y aura pas de coupure entre les deux. Là.
Est-ce que... Oui, c'est ça. Oui.
Ça ressemble à ça.
Diane Leboutillier.
Oui.
Un mandat, une élection assez forte lorsqu'elle a remporté son premier mandat, très serré là. Mm-hmm. Est-ce que... dans les 2 prochaines années, que doit faire Diane Leboutillier si elle veut remporter un autre mandat?
Ben oui.
Comment vous voyez ça?
Oui, une majorité autour de 600 voix, si je me trompe. 600 voix sur une vingtaine de mille votants, sur un potentiel au-delà de 40 000, donc à peu près la moitié des gens qui sont allés, un peu plus. Ben écoute, Diane, c'est le fun de maintenir une ministre dans la région. C'est clair, c'est un avantage, hein? Théoriquement, c'est un avantage. Maintenant, sans porter de jugement, je pense que, comme tout député, Diane Leboutillier doit s'assurer de demeurer connectée avec son électorat, avec son comté, en premier lieu. Hein, il y a un proverbe qui dit que la politique, c'est avant tout local. Hein? Tu ne peux pas être ministre si tu n'es pas d'abord député. Fait que ça veut tout dire. Donc, puis je dis pas que c'est le cas. Je pense que Diane Leboutillier est quelqu'un, une politicienne qui est assez près de son monde. On la sent présente sur le terrain. C'est ce que j'entends. Maintenant, elle doit continuer dans ce sens-là. Puis c'est sûr que le résultat de l'élection, est-ce que c'est attribuable à son efficacité, à son rendement durant le premier mandat, ou c'est grandement lié, je dirais, à l'impopularité de son chef? Hein? Veux pas au fédéral, ce qu'on dit et ce que je pense aussi, c'est que on vote beaucoup plus pour le chef au fédéral peut-être que le député du comté, contrairement peut-être à la scène québécoise où un député a plus de dossiers qui touchent le quotidien de son monde, de ses électeurs électrices. Le fédéral, c'est un peu plus loin. Donc, de la région, un peu plus loin des électeurs. Donc, souvent, on va voter beaucoup plus en fonction là, du chef. Là. C'est ce que je pense. Là.
On sait que du côté, en tout cas, d'après l'analyse des dossiers ou l'analyse des votes, on sent que le Bloc québécois était très fort du côté de Gaspé, Haute-Gaspésie. Oui. Est-ce qu'il y aurait des dossiers qui pourraient faire pencher une balance, genre un fort de Cap-des-Rosiers qui serait réglé? Un dossier comme celui de la revitalisation de Rivière-Ordnard avec l'argent du fédéral, parce qu'il reste... Est-ce que ce genre de choses-là pourrait aider là, l'électorat?
C'est sûr que des annonces, des dossiers qui se règlent au niveau du fédéral, c'est une bonne nouvelle pour... Le politicien ou la politicienne qui est en place, les emplois, l'économie, mais
fédéral,
c'est clair que des annonces positives par un député puis, ou un député, une députée ministre, c'est un élément positif dans la balance. Là. Maintenant, comme je le dis, au fédéral, souvent le chef là, va emmener très, très large, non seulement au niveau des décisions, mais aussi au niveau de l'électorat. Donc, mais on ne se trompe jamais en demeurant près de notre monde, accessible et, bien sûr, en réalisant le maximum de dossiers. Plus on fait de gens contents, plus tu as de chances qu'il y ait un retour d'ascenseur au niveau de la boîte de scrutin, c'est clair.
Alors, puisqu'on parle de politique, on va terminer avec ça, la CAQ. Prochaine année, bilan, tu as une première année et qu'est-ce qui s'en vient? Donc, est-ce que la lune de miel va s'éterniser? Est-ce que là, ça commence à tomber? Comment vous avez vu cette année-là?
Moi, je pense que la lune de miel est terminée, mais ça ne veut pas dire qu'on est dans une phase négative pour la CAQ, au contraire. Quand on parle de lune de miel, là, rendu un an, il n'y en a plus de lune de miel en politique, tant qu'à moi. Là.
Ouais.
Si le gouvernement a encore un fort taux de popularité, c'est parce que les décisions qu'il prend sont bien accueillies par la population. Hein. C'est plus de l'improvisation, là. C'est dans le sens que c'est plus gratuit. Là, le gouvernement, depuis quelques mois, on le voit, est évalué en fonction des décisions qu'il prend. Il y a eu quelques décisions où ça a moins bien été. On l'a vu dans les médias. Le gouvernement a quand même su être à l'écoute de la population, puis ça, c'est un plus. Je pense que ce gouvernement-là, bon, quand on parle de plus de 50 % de popularité, même s'il a atteint tout près de 60 dans les derniers mois, il y a eu une petite baisse, là, c'est quand même excellent. Moi, ce que j'entends dans la population, les gens sont encore très satisfaits du gouvernement. Maintenant, c'est sûr qu'il va falloir peut-être... je vous dirais qu'après un an, ça vient vite. On a pris des décisions, les gens vont l'évaluer sur l'efficacité, mais aussi sur...
Il faudra peut-être avoir un peu plus de profondeur. Ou...
Oui, je pense, parce que c'est ça, il y avait quand même une liste d'épicerie, là, des engagements électoraux que la CAQ a voulu réaliser. Bon, ça, c'est bien. C'est un gouvernement qui a réalisé ce qu'il s'est engagé à faire durant sa campagne. Je pense que tout le monde est bien content de ça. Mais là, la liste d'épicerie commence à s'épuiser. Puis là, on va tomber dans des dossiers de plus longue haleine. Là, on va tomber dans... On va chercher de la rigueur, trouver la vision, les orientations de ce gouvernement-là. Autrement dit, qu'est-ce qui va laisser une marque de ce gouvernement-là? Le gouvernement, déjà, un an de passé, il doit mettre la terre pour voir c'est quoi les grandes réformes qu'il veut amener. La petite liste d'épicerie, là, oui, c'est bien de la régler, il faut... ça fait plaisir, on règle un paquet de choses rapidement, mais là, à un moment donné, ça va être des moins faciles qui s'en viennent. Là. C'est des gros défis. Je parlais tantôt, par exemple, l'accessibilité aux régions. Hein? La Côte-Nord, là, la saga de la traverse avec Matane, c'est une farce, c'est ridicule. On parle aussi de la route 138, qui est une des routes les plus dangereuses au Québec. On parle pas beaucoup, mais je le sais qu'il y a un problème majeur au niveau de la Basse-Côte-Nord. Les gens ont de la difficulté à se faire approvisionner là, pendant certains mois de l'hiver sur la Basse-Côte-Nord. La Gaspésie, hein? On a tous nos enjeux au niveau transport. Donc, est-ce que ces enjeux-là majeurs, le moins facile à régler, est-ce que le gouvernement va les attaquer, ces enjeux-là? Toute la question de l'emploi en région, est-ce qu'on va s'attaquer à ça directement avec une vision globale? L'accessibilité, je dirais, de l'éducation en région. Il n'y a pas de raison aujourd'hui qu'on n'ait pas plus de formation post-secondaire, c'est-à-dire collégiale et universitaire en région, avec tous les moyens au plan technique, au plan technologique de disponible. Donc, moi, ce que j'ai hâte de voir, ça va être quoi la marque de commerce? Ça va être quoi la marque que va laisser ce gouvernement-là? On a réglé beaucoup de petites choses, très importantes, bravo, C'était important, il fallait le faire. Mais là, ce que je veux voir, c'est comment ce gouvernement-là va laisser sa marque. Ça va être quoi la couleur de la CAQ là, après son premier mandat? Puis il faut qu'il commence à s'attaquer immédiatement là-dessus, parce que 3 ans, c'est très vite passé.
Ça, est-ce que ça prend un nouveau ou nouvelle ministre responsable de la région?
Oui.
Vraiment notre région comme on le demande?
Bonne question. Écoutez, c'est difficile de se prononcer là-dessus. Moi, j'ai rencontré à quelques reprises Mme Proulx, la ministre responsable de la région. C'est quelqu'un de très sympathique. C'est quelqu'un qui demande une grande ouverture. Maintenant, est-ce que là, le temps et l'équipe et l'organisation pour bien desservir, bien jouer son rôle, malgré toute sa bonne volonté, est-ce qu'elle a tous les moyens pour desservir les régions de Beauce-Appalaches, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-de-la-Madeleine? On peut se poser la question. Donc, c'est sûr. Puis là, il n'y a rien de personnel par rapport à Mme Proulx. Ce serait n'importe quel ministre qui serait en place. J'aurais la même réponse. Les 3 régions que lui a données le premier ministre sont, à mon avis, beaucoup trop grandes, complexes et en attente de décisions majeures pour une seule ministre régionale. C'est ce que je pense, puis ça n'a rien à voir avec la personne. Ce serait n'importe qui, à part de Superman ou Superwoman, je répondrais la même chose.
Gaëtan Lelièvre, merci beaucoup pour cette revue d'actualité de l'année 2019. On se reparle début janvier.
Ça m'a fait plaisir. Joyeuses fêtes. Bonne année, joyeuses fêtes à tout le monde.